10 minutes chronique. Philippe Cadic, 5e épisode. Dans 10 minutes chronique du 30 mai, j'ai parlé de la nouvelle Le Grand O, parue en 1953, dans laquelle, longtemps après une catastrophe nucléaire, l'humanité est revenue au temps des chasseurs-cueilleurs, vivant sur les ruines d'un passé qui lui est devenu incompréhensible. Un grand ordinateur, réplique rouillée et inversée du sphinx, la maintient dans l'ignorance, et d'une certaine manière, par défaut, mène le monde. Ce thème de la machine toute-puissante à l'encontre des hommes est récurrente dans la littérature de science-fiction. Et du robot à l'ordinateur, on la retrouve bien sûr dans les écrits de Philippe K. Dick. Cependant, la machine, même dans les romans hallucinés de Dick, n'apparaît pas tout à fait comme un objet de science-fiction puisque ce sont bien les hommes qui ont créé les ordinateurs et qui ont décidé des fonctions qu'ils devaient opérer. Dick imagine des mondes où règne l'incurie des hommes à diriger la société, où débordés, ils s'en remettent à un pouvoir mécanique sans âme. Or, si dans la nouvelle Le Grand O, les individus s'abandonnent, battus par la machine, les événements tournent autrement dans les romans qui suivront. Dans Le Tri solaire, on l'a vu la dernière fois dans cette émission, c'est une tombola, le Minimax, qui permet aux populations de gagner les biens matériels qu'elles ne peuvent acheter. Cependant, le hasard préside également à leur destinée professionnelle et donc à leur place dans la société. C'est le meneur de jeu, le tout-puissant Véric, qui distribue les emplois avantageux, les fonctions prestigieuses, auprès de ceux qui lui prêteront allégeance. Or, lui-même a accédé au pouvoir quand son nom a été tiré au sort par la machine, nommée aussi la bouteille ou encore appelée l'instrument socialisé du hasard. En voici quelques extraits. Ted Bentley vient d'être licencié. On lui rend sa carte d'employé. C'était étrange de la revoir après tant d'années. Il resta un moment à la tenir gauchement entre ses doigts avant de la mettre dans son portefeuille. Elle représentait son unique chance sur 6 milliards à la grande loterie, une fragile possibilité d'accéder par une imprévisible saute de la bouteille à une position de classe 1. Bentley se rend à Batavia où réside le directoire. Il loue une chambre et se met au travail pour préparer son entretien. Il emprunta un petit scanner et des bracelets de bande à la bibliothèque d'information publique. Pendant des jours, il accumula tout un arsenal d'informations relatives à la biochimie, sujet qui lui avait valu sa classification initiale. Il bûchait comme un enragé, sans perdre de vue un fait primordial. Les demandes d'allégeance professionnelle auprès du meneur de jeu n'était examiné qu'une seule fois. S'il échouait, c'était fini. 5 jours plus tard, il est prêt. Un frisson glacial le parcourut lorsqu'il se leva ce matin-là. Les embauches du meneur de jeu Véric répondaient au principe fondamental du Minimax. Apparemment, le hasard présidait à la répartition des serments d'allégeance. En 6 jours, Bentley n'avait pas réussi à déterminer un quelconque schéma, ni le facteur, s'il y en avait un, à même de lui garantir le succès. Finalement, sans avoir à passer le moindre entretien, on demande à Bentley de prêter un serment d'allégeance au meneur de jeu. Il est alors définitivement lié au tout-puissant Véric. Ce que ne sait pas Bentley, c'est que la bouteille qui se manifeste de façon aléatoire vient de tourner. Un autre meneur de jeu vient d'être désigné, au hasard, parmi l'ensemble de la population. Véric est banni. Bentley est piégé, associé à un perdant. La suite du roman nous entraîne dans les vertiges des personnalités remplaçables. Elisabeth von Herwürg, auteure elle-même de SF, a écrit « Philippe K. Dick » est l'auteur de la porosité. Si l'on reprend ce terme de porosité, on peut en effet l'illustrer grâce à l'ensemble de l'œuvre de Dick, dans laquelle circulent et se croisent les pensées de visionnaires et de télépathes, où les passages extra-dimensionnels et la perméabilité entre le temps et l'espace sont banals. Dick est aussi l'auteur de porosité inévitable en littérature quand on écrit dans un genre qui a été l'aliment d'un imaginaire depuis l'enfance. On a souvent rapproché Loterie solaire, paru en 1955, du roman de Van Vogt, Le monde des A, paru en 1948, dont voici un extrait. Gossen se sentait absolument certain de pouvoir concourir jusqu'au 30e jour. Son problème n'était pas de savoir s'il pouvait gagner, mais si on le laisserait essayer. Unique et impénétrable, la machine dominait les êtres humains qu'elle allait classer selon leur culture sémantique. Pas un individu vivant ne savait exactement à quel endroit de sa structure se trouvait un cerveau électromagnétique. Comme tant d'hommes avant lui, Gossen se posa la question. « Où l'aurais-je mis ? » se demanda-t-il, « si j'avais été l'un de ces architectes hommes de science ?» Cependant, du roman de Van Vogt à celui de Dick, la similitude et la comparaison s'arrêtent au moment où le héros de l'un et l'autre de ces histoires ne passe pas l'examen auquel il s'est préparé. Ici, l'originalité de Dick s'affirme et se détache de l'influence de son maître. Dans Les marteaux de Vulcain, roman de Dick, que j'ai déjà évoqué ici dans l'émission « Le pouvoir de la machine » du 6 octobre 2019, les nations ont été regroupées sous le vocable « l'Union terrestre », laquelle est dirigée par Vulcain III. Voici ce que l'on peut lire dans les premières pages. « Tout ce qui touchait à la politique était du ressort de Vulcain III. Telle était la loi. » Dans ce livre paru en 1960 aux États-Unis, le monde est donc sous la coupe d'un superordinateur et tous les États terrestres appliquent ses règles. Un seul homme, le directeur, a la responsabilité de recevoir et transmettre ses messages à la planète entière. Ainsi, on est dans une société où toutes les nations se sont mises d'accord pour confier à une machine le pouvoir absolu sur les individus, où les activités et les comportements des populations, mais aussi leurs besoins, sont analysés par Vulcain III. La population est donc conduite jusque dans sa vie quotidienne par une machine. Au moindre problème, à la moindre décision utile ou indispensable aux États, Vulcain III, après consultation, apporte toujours la bonne solution. Or, depuis quelque temps, Vulcain III n'apporte plus de réponse et le directeur est inquiet. Il décide donc d'utiliser l'ancien modèle de Vulcain III, Vulcain II. Un moment plus tard, il quittait le contrôle de l'Union, se hâtait le long de la rampe qui menait au terrain resserré entre les nids de canons anti-aériens à grande puissance jusqu'à son hangar personnel. Bientôt il s'élançait dans le ciel crépusculaire, vers la forteresse souterraine où l'immense ordinateur Vulcain était gardé, soigneusement caché aux hommes. Dans les profondeurs de la forteresse souterraine, le directeur atteint Vulcain II. S'asseyant à l'une des tables, il ouvrit sa serviette et en tira des papiers. Soigneusement, il commença à préparer ses questions. Pour cet ordinateur archaïque, il devait taper les données lui-même. À l'aide d'un clavier, il épela les premières séries sur la bande métallique. Puis il actionna le transporteur de bandes. Un sifflement asthmatique se fit entendre tandis que Vulcain II se mettait péniblement au travail. Des lumières s'allumèrent. Un morceau de bande jaillit d'une fente et tomba dans le panier. Il le ramassa et lut. Un délai est nécessaire. Revenez dans 24 heures, s'il vous plaît. Maintenant, l'ordinateur ne fonctionnait plus aussi rapidement. Il le savait, et cela ne le surprit pas. De nouveau au clavier, il établit les données de base de ses questions, referma sa serviette, sortit rapidement de la pièce et reprit le corridor désert à l'odeur de moisi. Plus tard, quand le directeur revient auprès de Vulcain II, ce n'est plus qu'un amas de débris. Il soupçonne alors le groupe de dissidents qui militent contre le pouvoir de la machine. La fumée âcre des transformateurs grillés flottait et s'accrochait au plafond de la pièce. Comment était-ce arrivé ? Comment l'avait-il détruit? Et pourquoi? Cela n'avait aucun sens. S'ils étaient parvenus à localiser la forteresse et à y pénétrer, si l'un de leurs agents avait pu arriver aussi loin, pourquoi avaient-ils perdu leur temps ici, alors que Vulcain III se trouvait seulement à 6 niveaux plus bas? Pour terminer, voici une citation extraite de la petite histoire du tirage au sort en politique de Yves Saint-Omer, 2012. C'est à l'âge classique, et tout particulièrement à Athènes, que le tirage au sort des charges publiques devint systématique et que son usage politique s'émancipa de ses significations religieuses ou surnaturelles. La procédure devint routinière et les Grecs inventèrent un instrument utilisé pour décider des choses de la cité, le clérotérion, littéralement la machine à tirer au sort. À bientôt, le 4 juillet.